commencer, je pense.
Ouais, oui. Ouais. Bon, bienvenue. Ici, c'est Matière Revue. On fait régulièrement des rencontres avec les artistes. Chaque fois, on fait autour d'une thématique. Et aujourd'hui, c'est matière collective. Et on a invité déjà trois collectifs à venir. Et aujourd'hui, c'est Braquage avec Francesca qui va parler sur le travail des projections et diffusion des cinémas expérimentaux. Bon, merci Francesca.
Bien. Bonjour à tous. Je pense que j'ai changé avec un peu, non, avec ton nom encore. Et quelqu'un parmi vous était là dans l'installation tout à l'heure, donc vous avez déjà un tout petit peu vu ce que je faisais pour installer. Je le dis parce que je lis et j'amène des machines avec moi parce que j'ai toujours un peu peur que ça soit abstrait, ce que je vais raconter par rapport à l'association. Parce que Braquage est une association qui s'occupe de diffusion de cinéma expérimental. Et je sais, parce que je l'ai compris dans les années de travail dans cette association, que c'est un concept assez insaisissable pour beaucoup de monde. Qu'est-ce que c'est le cinéma expérimental? Qu'est-ce que c'est la diffusion du cinéma expérimental? Et qu'est-ce que c'est aussi la pédagogie du cinéma? Donc voilà, je vais chercher de vous raconter tout ça, sachant que, deux choses. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, vraiment pas à me le dire. Et la deuxième, c'est vraiment prosaïque, mais j'ai laissé mon portable sur vibreur parce qu'il y a un ami qui va peut-être m'appeler pour arriver ici. Donc dans ce cas-là, il faudra que je lui réponde. Et du coup, je vais peut-être raconter un peu qu'est-ce que c'est Braquage.
Mm-hmm. Ouais.
Donc c'est une association qui a été fondée il y a 17 ans. Donc bien avant que j'habite en France, moi je terminais mon lycée à l'époque. Donc je ne connaissais ni Paris, ni le cinéma expérimental, ni la pédagogie du cinéma. Je ne soupçonnais pas en fait son existence, puisqu'en Italie, d'où je viens, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et je crois que c'est ça aussi qui m'a attirée dans cette direction quand je suis arrivée en France il y a une dizaine d'années. Mon Braquage existe depuis 17 ans et s'est fondé comme une association de gens qui avaient 18-20 ans à l'époque, donc c'était des ultra jeunes, qui se rend compte qu'il y a des lieux de diffusion de cinéma singuliers possibles, il y a des distributions de cinéma singuliers qui existent à Paris, mais il n'y a pas de lieu pour distribuer le matériel. Donc il n'y a pas de lieu où les gens puissent aller emprunter une caméra 16 mm, Super 8, ou des objectifs particuliers, voilà. Donc ils créent ce lieu-là et ils commencent à faire pour se payer.
Vas-y, continue.
Si un jour vous venez à une projection de Braquage, c'est exactement comme ça. Et donc pour se payer, parce qu'ils avaient besoin d'acheter du nouveau matériel pour l'association, ils commencent à faire des ateliers de formation de gens aux pratiques de réalisation. Et petit à petit, les gens qui ont suivi ces ateliers, donc un atelier par exemple de prise de vue à 16 mm, ou de développement de pellicule, etc., ils commencent à faire des films. Donc après, les gens de Braquage, à l'origine de Braquage, se disent, comme il y a des gens qui commencent à faire des films formés par nous, on va trouver des lieux où ces films puissent être projetés. Et c'est comme ça donc, que l'association bascule à une forme de diffusion du cinéma. Et on commence dans les années 2000 à projeter des films dans des lieux qui sont plus ou moins pas institutionnel. Donc il y a quand même des cinémas qui accueillent ces projections, sachant que les cinémas sont moyennement partants pour accueillir des projections de cinéma expérimental parce que ça ramène pas d'argent. Voilà. Et après, il y a des lieux comme des squats, des galeries, des musées aussi. Voilà, petit à petit, il y a un réseau qui s'ouvre. Et moi, je suis rentrée dans l'association il y a 6 ans, donc c'est depuis 6 ans que je peux parler avec véritable cognition de ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est une association pauvre, de manière revendiquée en fait, parce que depuis le tout début de l'association, ils n'ont pas voulu, et aujourd'hui ça continue un peu comme ça, de manière un peu plus nuancée, je vais peut-être en parler, ils ne veulent pas avoir de subvention. Au début, c'était pour rester libre, pour avoir une totale liberté de projection, de programmation, etc. Et c'est aussi pour une forme de feignantise d'association, parce qu'objectivement, à l'époque et aujourd'hui aussi, il n'y a personne dans l'association qui veuille ce côté de l'administration. On n'est vraiment pas doué pour ça, et ça, voilà. Donc, en 17 ans d'existence, on a touché en 2008 une subvention, et c'était la seule.
Bonjour.
Et c'était pour la création d'un journal, d'une revue de cinéma, dont j'ai amené ici un numéro que je laisse à Vincent et Caroline, hein, que je peux vous montrer à vous, qui est très joli et qui s'appelle Exploding, dont le but était encore une fois faire connaître le cinéma expérimental ou des formes un peu bizarres, singulières, rares de cinéma. Et du coup, ce qu'on cherche de faire depuis 6 ans à aujourd'hui, c'est continuer de montrer du cinéma expérimental, sachant qu'à chaque nouvelle personne qui rentre dans l'association, enfin, l'idée de l'association, c'est que ça soit un outil. Donc chaque personne qui rentre s'empare de l'outil comme il veut. Et si aujourd'hui, il y avait une personne, je ne sais pas, je dis comme ça, mais experte et passionnée documentaire qui rentrait dans l'association, sûrement, il y aurait un virage du côté documentaire ou d'autre côté, s'il y avait des envies nouvelles. Donc aujourd'hui, depuis que je suis rentrée et depuis qu'après d'autres gens sont rentrés, le côté expérimental dur et pur s'est un peu adouci, voilà. Et on a fait aussi des festivals de cinéma de fiction ou documentaire ou des projections d'animation. Voilà, on cherche à s'ouvrir le plus possible à d'autres formes de cinéma, sachant que l'intention, c'est toujours préserver, protéger et diffuser un peu des gens qui ne sont pas dans des réseaux de distribution et de production. Mm-hmm. Donc des formes immédiatement plus fragiles et plus difficiles à circuler. Et à côté de tout ça, après, si vous voulez, je peux rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on fait, mais à côté de tout ça, on fait de la pédagogie du cinéma, donc de la création d'ateliers, dont le but est double. D'un côté, nous ramener de l'argent, parce que les programmations, si tout va bien, on ne perd pas de l'argent. Donc l'argent qu'on utilise pour les locations, puisqu'on loue les films dans des distributeurs de cinéma expérimental ou autres, les copies coûtent, et pour nous c'est très important de payer cet argent-là, parce que c'est de l'argent qui va à des artistes qui sont déjà voilà, une position un peu de fragilité économique, encore une fois, et on n'a pas des centaines et des centaines de spectateurs, donc voilà, très souvent on ne rentre pas dans les frais. Et ce qu'on fait depuis toujours avec les ateliers, c'est qu'on demande d'être payé un peu plus pour les ateliers, et ce petit peu plus, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses de l'association pour payer après la location des copies. Donc de cette manière-là, ça fait 15 ans qu'on tient de manière digne, voilà, sans nous enrichir, mais en arrivant correctement à faire survivre l'association. Donc ça, c'est l'intention économique des ateliers. Et l'intention pédagogique, c'est le fait de non pas former des gens, parce qu'on ne fait pas vraiment de formation au métier du cinéma, mais c'est l'idée que le cinéma, ça soit quelque chose, à n'importe quel niveau qu'on le fasse, ça soit quelque chose d'accessible. C'est-à-dire que moi, ça fait 10 ans que, pour simplifier la donne, je dis que je travaille dans le cinéma. Et les réponses sont souvent « Ah, mais donc tu dois fréquenter du bon monde, tu sors avec des acteurs, tu connais des réalisateurs », alors que voilà, c'était loin d'être comme ça. Mais c'est un peu l'idée générale. On travaille dans le cinéma et donc on va faire des projections à Cannes et après on boit des apéros sur la Méditerranée. C'est possible, mais c'est pas ce qu'on fait. Et l'idée, voilà, vraiment l'intention primaire, c'est faire comprendre que le cinéma, c'est un métier, mais qu'on peut décomposer. Et pour faire comprendre ce qu'il y a à l'intérieur du cinéma, qu'est-ce que c'est le cinéma, comment ça marche, c'est-à-dire de la pellicule, du mouvement, de la projection, de la photographie, les composantes du cinéma, on décompose le cinéma dans les ateliers, pour montrer comment ça marche, qu'est-ce que c'est la pellicule, comment on peut travailler avec la pellicule, comment on peut travailler avec la projection, indépendamment après de ce que la projection peut amener au cinéma, etc. Et de cette manière, voilà, on a l'impression, on le fait beaucoup avec les enfants, mais avec les adultes aussi, qu'il y ait un peu plus de conscience concrète de l'outil qui se crée, et que les gens ressortent en se disant « Ah, donc on peut faire du cinéma, enfin, tout le monde peut faire du cinéma », ce qui est vrai, en fait, tout le monde peut faire du cinéma. Et les gens qui font du cinéma expérimental,
c'est souvent des gens qui travaillent en solitaire, dans des laboratoires auto-créés, auto-gérés. Laboratoire, c'est un mot un peu charmant, mais laboratoire, ça peut être une pièce de la maison. Et c'est souvent une pièce de la maison.
C'est comme ça.
Après, on les appelle les laboratoires, les ateliers. Et donc voilà, l'intention pédagogique est là. Et aussi, face à ça, on cherche aussi à le prolonger aussi dans les projections, parce que la grosse majorité de nos projections se font en pellicule avec un projecteur qui est présent en salle. D'un côté, parce qu'on n'a pas de cabine de projection, très souvent, là, on va projeter, donc on est un peu obligé de l'avoir comme ça au milieu de la salle. Et de l'autre, parce que c'est super chouette d'avoir un projecteur en salle, et ça nous arrive pratiquement toujours que quelqu'un, à la fin de la séance, vienne voir comment ça marche un projecteur 16 ou Super 8, dans des rares cas 9-5, et qu'on explique aussi comment ça marche. On laisse les autres projeter, accompagner, parce que voilà, il y a un vrai savoir-faire qu'on n'improvise pas dans la projection. C'est pas difficile, mais il faut savoir le faire. Et il y a quelques années, il y a 4 ans, on a une chance énorme, et on a récupéré une archive entière de films. De films qui ne sont pas expérimentaux, mais c'est des films de fiction, des documentaires, parfois des films extrêmement connus dans l'histoire du cinéma. Il y a pas tout, mais beaucoup des grands noms du cinéma muet, et après Marlon aussi. On a récupéré environ 400 films. Ouais. Et c'est des films qui n'intéressaient pas les grandes cinémathèques parce que c'est des films en subformat. Nous, on n'a pas de 35 mm. Par contre, on a des 16, des Super 8, des 8, des 9,5. Donc. Et comme on a les machines pour projeter tout ça, une fois par mois, donc le banc. Là, j'ai amené, c'est pas pour faire de la pub, mais ça aussi, oui, pourquoi pas. J'ai amené le tract de la prochaine séance de braquage, qui est donc le 20 juin, à 20h. On a initié un cycle qui s'appelle le 20h20h. Et donc la semaine prochaine, oui, mardi prochain, on projette un film de Skolimowski, qui s'appelle La Barrière, qu'on a toujours dans les collections. Et donc une fois par mois, on sort un ou plusieurs films de cette collection pour... parce que c'est quand même bête d'avoir une collection à la maison et pas la montrer aux autres. Et on invite des gens pour présenter ces films. Donc c'est souvent des gens qui sont un peu experts, soit du film en question, soit du courant, soit du pays d'où vient le réalisateur, etc.
Voilà, Vous faites un débat sur le film après.
Ouais, on fait. Alors l'idée, c'est faire une présentation un peu pas intellectuelle, mais ça dépend aussi de la personne qui vient présenter, parce qu'il y a souvent des universitaires, donc nous on ne donne pas de contraintes, mais chacun le fait avec son style, ou juste des passionnés de cinéma qui sont amoureux de Hitchcock par exemple, qui ont vu tous les Hitchcock 5 fois à chaque film. Et du coup, qu'ils peuvent en parler de manière passionnelle et intime. Et chacun en parle un peu comme il veut pendant 10-15 minutes. Et après, à la fin de la séance, on fait des débats et, qui sont dans la salle quand on en a envie. Et de toute façon, on prévoit toujours un moment qui peut être assez long de buvette en dehors de la salle. Donc, les discussions se prolongent dans la cour où on fait des projections. Et ça donne des échanges qui sont très, très fluides, très simples. Ouais, et qui sont assez satisfaisants, il me semble, pour tout le monde. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont toujours un peu de difficulté à prendre la parole en salle. Et voilà, cet échange-là, ça libère un peu plus la parole.
Et depuis le temps que vous avez braquage, là, du coup, est-ce que tu as senti qu'il y avait un intérêt qu'il y ait de personnes novices qui venaient à ces rendez-vous? Ou c'est plutôt des gens avertis, quoi, à chaque fois ou... Parce qu'en en original, on revient un peu sur, je sais pas, il n'y a pas de Polaroid, mais tout ce qui est argentique et choses comme ça. Et là, c'est dans le cinéma, t'as senti aussi ça, t'as de l'intérêt en fait qui se porte plus à...
Alors, on a un peu galéré. Alors, il y a un réseau très très fort de gens qui suivent fidèlement le cinéma expérimental. Donc c'est, nous on est nul en administration et aussi en communication, donc on n'a pas de site, on a un Facebook et un mailing list. Et parfois on cherche vraiment à diffuser l'information et tout ça, et ça marche pas du tout. Après, dès que c'est une séance purement expérimentale, il y a miraculeusement 50 personnes qui se ramènent. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas comment ils suivent, parce qu'ils n'ont pas Facebook, ils n'ont pas de mail.
Non, pas vous, ouais.
Mais ils sont là. Parce que le bouche-à-oreille se fait magnifiquement bien. Et dès qu'on cherche à faire un truc de cinéma documentaire, personne. Enfin, personne, il y a 3 personnes. Et au début, c'était très difficile pour les projections du 20 à 20 heures. Parce que moi, je trouve personnellement que c'est un projet magnifique, parce que je connais très peu de lieux à Paris qui projettent un pellicule ou un subformat des grands noms de l'histoire du cinéma. Mmh. Et si j'avais su, quand j'étais en Erasmus ici, qu'une association comme ça faisait des projections de ce type-là, je me serais catapultée. Mmh. Mais on n'arrive pas, c'est très difficile d'aller atteindre d'autres cercles, d'autres réseaux. Quand même, Paris est une ville qui s'articule beaucoup à un réseau, un petit royaume de connaissances et de métiers. Donc c'est difficile. Pendant une année et demie, à chaque fois qu'on faisait une projection de cinéma en pellicule, mais pas expérimentale, on avait 5 personnes. Et après, quelque chose s'est déclenché. Et ça fait un an qu'on a du public qui vient. Je ne sais pas si on a commencé à en parler un peu plus. On a commencé tout simplement à en parler. Mais voilà, donc pour répondre à ta question, il y a là, depuis un an, je ne sais pas exactement pourquoi, de plus en plus de gens qui viennent voir les séances pas forcément expérimentales et aussi des nouveaux visages aux séances expérimentales. Mais pendant au moins 4 ans, d'existence, de mon existence à l'intérieur de l'association, non, on a eu toujours les mêmes gens, ce qui est super, parce que ça crée une vraie communauté. Après, mon idée, ah là je parle pour moi, parce qu'on est plusieurs personnes à l'association, mais mon idée n'est pas de rester dans un cercle fermé de cinéma expérimental, mais voilà, d'ouvrir à tout le monde. L'un des problèmes, qui est aussi une vraie chance, c'est que depuis 2 ans, on projette dans un espace dont je parlais avec vous tout à l'heure, qui s'appelle l'espace Saint-Cours, qui est dans le 20e arrondissement. Nicolas Chen, qui est ici, est venu présenter aussi une séance à l'espace Saint-Cours. Je ne sais pas si vous avez
vu. Plus de la Réunion,
oui.
De la Réunion, oui.
Exactement. C'est une résidence d'artistes, donc qui accueille 4 à 5 artistes par an, ou tous les 2 ans. Donc c'est des gens qui sont invités faire une œuvre de création qui peut être autant cinématographique que musicale. Et il y a un espace de spectacle. Donc on y fait des concerts, des projections ou un peu tout ce qu'on veut. Donc des séances de yoga aussi, pourquoi pas, des répétitions de chant, il peut y avoir tout. Et donc moi j'étais résidente dans cet espace et du coup, comme je fais partie de la maison, je peux continuer de faire des projections ici à l'espace Saint-Cours. Donc d'un côté c'est un truc génial. Parce que finalement, on a un lieu où on peut aller toujours et c'est un endroit pas payant pour nous. Donc c'est super. De l'autre côté, c'est un endroit qui se veut semi-privé. Donc sans, encore une fois, site internet, avec très très peu de communication, qui est un lieu où les gens habitent, mais aussi un lieu public. Donc il ne faut pas trop faire circuler l'information, parce que quand même, il y a des gens qui dorment. Et là, c'est difficile d'aller atteindre des gens. On a monté un projet avec une copine il y a 2 ans qui était un projet de cinéma et poésie algérienne. Sachant que dans le 20e arrondissement, surtout la place de la Réunion, la grosse majorité de la population, des habitants, est maghrébine. Donc l'idée, c'était faisons un truc vraiment pour faire en sorte que ce lieu ne reste pas un lieu élitiste et réservé aux gens qui connaissent le cinéma et qui font l'université, etc., etc., des choses qu'on connaît tous. Et c'était extrêmement difficile d'avoir même une seule personne qui ne soit pas du réseau, qui vienne. On ne sait pas pourquoi, nous sûrement on s'est pris mal, mais l'intention était là de toute façon, et on n'a pas réussi. Voilà, mais c'est des choses qu'on cherche, quand même toujours à... Enfin, l'intention est toujours là, en tout cas. Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez que je vous montre un peu les machines?
Je vais montrer.
Oui, mais après, oui. Ouais.
Ok. Alors, j'ai amené 2 machines qui sont des machines avec lesquelles on travaille assez régulièrement. Alors, une qu'on utilise très très souvent et l'autre beaucoup moins. Mais je vais vous raconter pourquoi. Celle qui ici à ma gauche s'appelle l'incarne magique. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui ne la connaît pas?
Moi, je n'ai jamais
vu, mais je ne
sais pas.
Alors, la lanterne magique, comme on la présente aux enfants, c'est l'arrière-grand-mère d'un moderne projecteur. Donc aujourd'hui, les projecteurs en salle projettent des images en mouvement. Au XVIIe siècle, quand la lanterne magique est née, il n'y avait pas de cinéma. Donc on a inventé la projection avec des images fixes. J'ai amené la lanterne magique parce qu'on fait beaucoup d'ateliers de lanterne magique, donc toujours avec cette idée de décomposition du principe du cinéma. Il y a la projection, donc on va travailler sur la projection, indépendamment après du mouvement. Le mouvement, après, on l'explore plus avec les projecteurs, donc après je vous parle de cet objet-là. Et donc c'est un objet qui est né au XVIIe siècle, quand il n'y avait pas encore d'électricité. À l'époque, il n'y avait pas d'ampoule. Aujourd'hui, évidemment, il y a une ampoule à l'intérieur, mais il y avait une bougie. Et comme une bougie, en fait, si on la met dans une boîte, elle s'éteint parce qu'elle a besoin d'oxygène pour continuer de brûler. La flamme, on a besoin pour vivre. C'est une boîte en tôle ou en métal qui prévoit toujours une cheminée. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une petite cheminée. Bon, cette machine doit être du début du 19e siècle. Mais je pense qu'à l'époque, on faisait encore un peu le passage entre bougie, lampe à pétrole et ampoule. Et sur les côtés, il y a des trous qui ont été bouchés là, parce qu'on en a plus besoin, mais desquels la fumée sortait. Devant, il y a deux objectifs. Il y a un petit là, pour les enfants, vous voyez que je ne peux pas rentrer mon doigt. C'est parce qu'il y a une lentille qui est ici et qui sert à faire le point. C'est-à-dire avoir une image floue, une image nette. Et après, une grosse lentille qui est ici à l'intérieur, qui fait comme ça à peu près d'épaisseur. Cela dépend de la puissance de la lanterne magique. Celle-ci n'est pas une super lanterne magique, mais ça marche très bien pour les ateliers. Et on glisse les images là, donc il y a des fentes. Donc on glisse les images entre la lumière et l'objectif. Je voulais dire un autre truc, mais... Donc pour ce principe de double lentille d'image, on la projette à l'envers. J'ai amené une plaque qui est chouette parce que c'est une plaque qui prévoit un mouvement. Parce que quand même, enfin, les images étaient fixes, mais on explorait des manières d'obtenir des formes de mouvement. Et c'est là, je vais la faire circuler. Malheureusement, je ne peux pas la rentrer parce que comme ce n'est pas une super lanterne, ces plaques avec un passe-vue et deux strates, il n'y a pas la place pour les projeter. Mais donc, c'est... Je ne sais pas si tu veux la faire passer. Mm-hmm. Donc il faut juste retirer. C'est un monsieur avec un télescope qui voit quelque chose tout à l'heure, je ne sais pas quoi, parce que comme ça vous le voyez. Et je l'ai amené parce que, en fait, la lanterne magique, on l'appelait magique parce qu'à l'époque, au XVIIe siècle, on ne connaissait pas le principe de la projection. Donc il y a des gens, des magiciens ou des charlatans qui en ont profité pour piquer énormément d'argent aux spectateurs en faisant apparaître non pas des paysages ou des jolies filles et des jolis garçons, mais des monstres, des cadavres, des squelettes. Et donc on faisait apparaître le défunt, le papa perdu de quelqu'un en salle, et on prenait beaucoup d'argent pour ça.
À la base, c'était un budget de charlatan. Alors.
Comment?
À la base, c'était un budget de charlatan.
Cette machine a été inventée par un scientifique qui s'appelait Christian Huygens, très grand scientifique hollandais du XVIIe siècle, quelqu'un qui un astronome qui avait une réputation gigantesque à l'époque en Hollande et qui un jour invente la lanterne magique, selon la tradition, selon la légende plutôt, pour en faire cadeau à sa petite fille, et qui ne le dit à personne, de peur que sa grande réputation de scientifique soit compromise par cette invention à dessous, quoi. Il a inventé la projection, enfin il a compris le principe de la projection, mais il ne le dit pas. Et du coup, comme il n'y a pas de brevet, il y a des dizaines de gens qui vont s'accaparer, profiter de cette absence de nom officiel pour prendre la lanterne. Et on faisait, il y a quelqu'un qui s'appelait Robertson, qui était un vrai magicien, mais un vrai charlatan aussi, qui organisait, j'avais inventé en fait un système hyper beau. Je ne sais pas s'il y a des plans que vous trouvez sur internet pour cacher. Alors, soit elle faisait des rétroprojections, donc en gros, sa lanterne magique était derrière l'écran. On ne voyait pas la machine ensemble. Voilà. Soit, en fait, elle était cachée dans une sorte de niche derrière les spectateurs et sur des pieds mobiles. Donc, en fait, l'apparition d'une tête, on la voyait de plus en plus grande ou de plus en plus petite. Il utilisait des fumées, des jeux de fumée sur les côtés, et donc l'apparition d'un squelette devenait un truc qui se rapprochait. Bref. Et donc, c'est pour cela que j'ai amené cette plaque-là, parce qu'il y a l'apparition d'un diable. Et dans les premières plaques, il y a beaucoup de diables, beaucoup de monstres, squelettes, etc. Par ailleurs, c'est chouette parce que les premiers films de l'histoire du cinéma vont réutiliser un peu ce principe. Donc, on a beaucoup de squelettes, de monstres, etc. Et après, parce que quand même, c'est un objet de charlatan, mais aussi un objet de scientifique, il y a des plaques qui expliquent comment ça marche. Donc je vais vous en projeter deux.
Non, vaut mieux mettre en full screen ça et éteindre la lumière.
Oui.
Non, mais juste si tu agrandis.
Ouais, voilà,
si
là, tu
juste
tu double-cliques dessus, ça va.
Tu vois là,
c'est bon ? Non. Allez, double-clique, on est mis.
Est-ce qu'il y a un enfant qui veut projeter ? Alors, la projection normalement est plus ronde que ça, mais comme là j'ai surélevé ma lanterne.
Oui.
Donc là j'ai déjà mise à l'envers. Tu veux venir ici ? Donc c'est dans la deuxième fente que tu le fais, je crois. Je me confirme ici. Presque. Attends, on va le faire ensemble. On va essayer dans la deuxième, de rentrer dans la deuxième. Oui, aussi. Ah, il y a un petit truc. Alors, bon, cette lanterne qui est quand même chouette, il faut l'amadouer à chaque fois. Bon, j'amène des petits bâtons parce qu'il y a des ressorts qui ont sauté, etc. Donc là, ok, là tu peux, dans la deuxième. Celle qui est plus proche de nous. Doucement, doucement. Tu ménages tes effets, tu vois, doucement. Voilà. Ah, c'est pas très droit, donc je le tiens avec mon doigt. J'aurais fait le point, parce qu'il est parti entre-temps. Voilà. Là, c'est un dessin très très simple. Si tu veux rester à côté de moi, je vais projeter la prochaine. Donc il y a le lanterniste qui est sur la droite. Il travaille en rétroprojection. Vous voyez bien la cheminée de la lanterne magique. Vous voyez aussi qu'il y a une plaque avec quatre images. J'ai amené des plaques avec plusieurs images et ça permet de raconter une histoire. C'est un peu comme une bande dossier. Voilà, le principe est là. Et du coup, on voit bien qu'avec la vignette, la bulle, en haut, que l'image est projetée, doit être projetée à l'envers. Et que après, elle est projetée à l'endroit. Donc, vous voyez aussi que c'est des riches qui regardent la projection. Donc, cette plaque, on peut la dater à la moitié du 19e siècle. Parce que la lanterne magique, en fait, est née comme un spectacle forain. Donc il y avait des lanternistes qui arrivaient dans la place principale d'un village, hein, criant « Monsieur, dame, les enfants, j'ai des images à vous projeter ». Donc on improvisait une projection, je parle d'improvisation parce qu'il n'y avait pas d'écran à l'époque. Donc on le faisait sur le mur blanc d'un bâtiment, sur des draps. Et voilà. Et petit à petit, la lanterne, c'est bourgeoise. Donc on commence à payer les riches, les familles, commencent à payer pour que ces projections soient faites à la maison. Donc là, on voit déjà voilà, que c'est un spectacle pour la famille et que ce n'est pas des précaires. Voilà. Et il y en a une autre qui est aussi une plaque un peu explicative. Juste, ok, c'est comme ça qu'il faut la projeter. On va le faire toujours ensemble. Voilà. Donc pareil, là on voit, là c'est super parce que on voit à l'intérieur qu'est-ce que c'est, la lanterne magique. Donc vous voyez la flamme, l'objectif, la projection. Sauf que c'est pas vrai, c'est-à-dire que c'est un peu mensongère puisque vous voyez que la plaque est projetée à l'endroit.
Ouais, vous voyez aussi,
Vous voyez le squelette qui est projeté à l'endroit par la plaque. Ok, c'est pas vrai. En fait, il faut le projeter à.
Au moins qu'ils aient des lentilles à l'époque. Remettre à l'endroit peut-être.
Non, parce que de toute façon, et c'est le principe de la chambre de la caméra obscura. Du coup, quoi qu'il en soit, les images sont à l'envers.
Mais c'est vrai qu'on en faisait de toute façon comme ça, c'est-à-dire des grandes chambres, et après on se promenait dans la pièce à droite, en allant un peu couvrir le faisceau de projection. Donc si j'ai amené la lanterne, c'est parce que on fait beaucoup d'ateliers donc de projection. Et attends, laquelle je vais projeter? Ah, c'est là, si tu veux bien me la projeter. La plaque du bison. Je te laisse faire. Et on a monté il y a 3 ans, on dit que Braquage a produit un spectacle. On a monté il y a 3 ans un spectacle pour les enfants de projection. Donc c'est des projections de lanterne magique, de projecteurs 16 mm et de rétroprojecteurs. On a écrit un conte, un rime, c'est l'histoire d'un petit rayon de lumière, donc le personnage principal est une torche. Veut se déguiser en grand pour frimer comme ça un peu. Et du coup, pour se déguiser en grand, il va se cacher derrière des machines de projection. Et c'est l'occasion pour avoir des projections de plus en plus grandes, jusqu'à arriver à la projection en mouvement d'un projecteur 16 mm. C'est ces outils-là qu'on a sur scène. Il y a une personne sur scène qui lit le conte. Après, il y a un musicien aussi sur scène. Il y a quelqu'un devant l'écran qui projette avec la lanterne magique et le rétroprojecteur et qui fait de la peinture indirecte sur... Vous voyez tous qu'est-ce que c'est le rétroprojecteur ? Mm-hmm. Mm-hmm. Et quelqu'un donc derrière la salle, derrière le spectateur, avec un projecteur 16 mm qui projette des films qu'on a dessinés ou grattés sur pellicule. Mm-hmm. Je vais revenir sur ça. Mm-hmm. J'ai choisi ces plaques-là parce que chacune me permet de raconter quelque chose de différent. Là, par exemple, c'est des bêtises, hein, mais il y a déjà des principes d'histoire. Alors, les plaques étaient... Il y avait toujours quelqu'un à côté qui bonimentait, qui racontait ce qui se passait. Ça, c'était pour les plaques de lanterne, mais ça s'est fait aussi beaucoup dans les premières années du cinéma. Donc, le film est muet, mais à côté, il y a quelqu'un, mais Yes le faisait, par exemple, qui lit le scénario. Parce que comme le principe du montage était... comment dire gentiment, n'était pas très bien maîtrisé au début de l'histoire du cinéma, très souvent les histoires n'étaient pas très compréhensibles. Et donc il y avait quelqu'un à un côté qui expliquait ce qui se passait. Mais bon, bref, là, on a un bison avec un indien qui cherche de le chasser. Et ce qui est intéressant, déjà pour le principe de commencer à raconter une histoire avec une image qui ne bouge pas, c'est le fait que le bison tourne la tête vers les spectateurs. Mm-hmm. Donc déjà, ce qui est un truc qui n'existerait pas dans la vie réelle, parce qu'un bison qui court, il regarde devant soi. Aussi bien qu'une personne qui court rapidement, si on se tourne, on tombe. Et là, il tourne les yeux vers nous. Et c'est un choix de l'artiste. C'est-à-dire que l'artiste s'est posé la question, comment montrer les émotions du bison, qui visiblement n'est pas content. Et voilà. Oui, c'est vraiment des yeux d'attention. Après, une autre chose intéressante sur cette plaque, on le voit très très bien, c'est la forme de création. Parce que, évidemment, la réalisation, je dis évidemment, mais voilà. La réalisation, le dessin de cette partie-là, a pris beaucoup plus de temps que la réalisation de tout le reste. Parce que, alors, pour dessiner une plaque de lanterne magique, souvent, on avait besoin de 2 mois. 1 mois, 2 mois, cela dépend de la précaution aussi de l'artiste en question. Parce que la moindre tâche, par ailleurs très peu visible sur une plaque de lanterne magique, devient une très grosse tâche une fois projetée. Et du coup, on faisait appel à des grands artistes. On les reconnaissait apparemment par leurs doigts à la fin de leur vie. Alors, c'est un truc horrible que je vais vous raconter. Ils dessinaient au pinceau tout ce qui est détaillé. Et après, le reste, ils le faisaient comme ça, avec le doigt, par petites touches. Donc, à force de dessiner de cette manière, le doigt s'était endurci. Et du coup, ils le coupaient. Ah. Pour faire du doigt un outil de coloriage, de peinture.
C'est quel métier.
Les êtres humains. Et une autre...
tout métier.
Une autre plaque qui permet... Vous me dites si vous en avez assez de plaques de lanterne magique, parce que moi j'aime bien.
Oui,
j'aime bien. Tout est bon, si, hein. Il y en a des autres, j'en ai déjà prévu, mais bien. Comment tu parles?
Ludmilla.
Ok. Quel âge ?
4.
Donc, elle est... Alors, bien ici, de ce côté-là, on va le faire ensemble, petit à petit. Dans la deuxième entrée, celle qui est la plus proche de nous, doucement, doucement, doucement.
Franchement, c'est une très belle plaque, celle-là. Ok.
Wow.
Stop. Ouais, elle est belle. Oh, elle est très belle. Et là aussi, principe d'histoire. Alors, je vous pose la question, voyons si ça marche. Est-ce que le bateau va couler ou pas?
Non,
parce que c'est des images qui bougent pas. Mais si l'image était en mouvement, effectivement, il y a grande chance que le navire ne se retourne pas. Pourquoi?